Merci d'écouter RFI. 13h en temps universel. Il est 15h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain. Nous irons dans quelques minutes à la rencontre d'Haïtiens qui fuient une deuxième fois. Après leur pays, c'est leur pays d'accueil qu'ils quittent, les États-Unis de Donald Trump, qui ne leur permettent plus de vivre sereinement. On appellera aussi notre confrère haïtien Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. On ira en Argentine, où le club de San Lorenzo a rendu hommage à son plus grand fan, le pape François, décédé lundi. Et puis Benoît Ferrand, vous nous parlerez dans une vingtaine de minutes d'un secteur qui se porte bien en Martinique, c'est celui des croisières.
271 400 croisiéristes, chiffre arrêté au 31 mars dernier. Les chiffres sont bons, mais il y a encore des points à améliorer. C'est ce que pense en tout cas le comité martiniquais du tourisme.
La bonne santé des croisières et tant pis pour la planète. À tout à l'heure.
RFI Midi.
Et tout de suite, le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On commence avec cette escalade diplomatique entre New Delhi et Islamabad.
Mardi, un attentat dans le Cachemire indien a fait 26 morts civiles. L'Inde accuse le Pakistan d'être responsable de l'attaque sans le nommer. Deux suspects sont d'origine pakistanaise, affirment les autorités. New Delhi a notamment décidé d'expulser tous les Pakistanais qui se trouvent en Inde. Ils doivent quitter le territoire dans les 5 jours. La réponse d'Islamabad n'a pas tardé, alors que le Pakistan nie toute responsabilité dans l'attaque. À Islamabad, Sonia Ghazali.
Injuste, politiquement motivé, extrêmement irresponsable, dépourvu de fondements juridiques, ce sont les termes utilisés par le Comité de sécurité nationale pakistanais dans un communiqué pour qualifier les mesures sans précédent de l'Inde. L'une d'elles est particulièrement mal reçue, il s'agit de la suspension par New Delhi du traité des eaux de l'Indus, un traité signé en 1960 et qui partage entre les deux pays les affluents du fleuve Indus. Le Pakistan craint que l'Inde, située en amont, ferme les vannes, une catastrophe pour les fermes du Punjab et du Sindh, greniers à blé du Pakistan, et qui dépendent de cette source d'eau. Islamabad prévient que toute tentative d'arrêter ou de détourner l'eau sera, je cite, considérée comme un acte de guerre et fera l'objet d'une riposte musclée. Islamabad répond par ailleurs à New Delhi, par là même en annonçant la fermeture de ses frontières terrestres, le départ du sol pakistanais de diplomates et de tout citoyen indien avant le 30 avril et la fermeture de son espace aérien aux avions indiens. Ces tensions font craindre une escalade dramatique entre les deux puissances voisines nucléaires, rivales depuis leur partition en 1947. Sonia Ghazali, Islamabad, RFI.
En Ukraine, la nuit dernière a été particulièrement meurtrière. Une pluie de drones et de missiles s'est abattue sur la capitale, faisant au moins 8 morts et 70 blessés.
Et cette attaque massive est le signe pour les Ukrainiens que la pression exercée sur Moscou n'est pas assez forte. Londres, de son côté, déplore un bain de sang perpétré par Vladimir Poutine. Le président français appelle son homologue russe à ne pas mentir. Mais du côté de Washington, Donald Trump veut à tout prix obtenir un accord de cessez-le-feu, quitte à entériner les conquêtes territoriales de la Russie, notamment celle de la Crimée, pour la plus grande satisfaction du Kremlin. À Moscou, Anissa El-Jabri.
Donald Trump reprend à son compte la doctrine russe à valise. Déjà dans les mots, l'annexion de la Crimée par Moscou il y a 11 ans, mais le Kremlin déclarait être complètement d'accord avec le président américain. Comme si souvent, il inverse le récit et fait aussi d'une pierre deux coups, cette fois en complimentant encore le dirigeant des États-Unis. Le Kremlin, ça aussi ses classiques, joue avec le temps et les nerfs des parties au conflit, annonce des préparatifs pour une rencontre au sommet Trump-Poutine, sans rien préciser d'autre. Le chef des renseignements extérieurs, lui, communique sur une potentielle rencontre avec son homologue de la CIA, tous ces petits cailloux pour nourrir encore et toujours la relation et son tête-à-tête avec les États-Unis, appuyé bien sûr sur les divisions entre occidentaux. Écoutez le commentaire du porte-parole du Kremlin sur la réunion hier à Londres entre diplomates européens, américains et ukrainiens.
Si nous comprenons bien, il y a eu des consultations d'experts à Londres, mais il n'y a pas eu de négociation en tant que telle. Nous voyons qu'il y a des problèmes avec le rapprochement des positions des parties, ce qui a conduit au fait que les plans pour la tenue d'une réunion à un niveau politique plus élevé à Londres ont été modifiés. Nous voyons qu'il y a certains désaccords là-bas.
Le statut de la Crimée n'est évidemment pas le seul sujet brûlant sur lequel Russes et Américains échangent en tête-à-tête. Il y a encore, entre autres, le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe et à l'arrêt depuis mars 2022, et sa prise par la Russie. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Question, Donald Trump est-il en train de reculer ?
À moins d'un nouveau revirement, en 2 jours, le président américain a relâché la pression sur le patron de la Banque centrale américaine, américaine, la Fed. Il n'a pas l'intention de le limoger, dit-il, mais aussi sur la Chine, avec laquelle il se dit prêt à un accord commercial équitable et ainsi alléger les droits de douane entre les deux pays. Nicolas Feldman, bonjour.
Bonjour Karine.
Donald Trump semble plus mesuré sur ces dossiers. Les milieux d'affaires n'y sont certainement pas étrangers. Ils se font entendre ces derniers jours.
Oui, et pourtant depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, les entreprises s'abstiennent de tout commentaire. Pas un mot sur la politique commerciale, de peur de s'attirer les foudres du président. Mais ces derniers jours, les langues se délient. Dernier exemple, lundi dans le bureau ovale, autour de la table, les patrons des géants de la grande distribution, Walmart et Target, tous deux mettent en garde Donald Trump. La hausse des droits de douane va peser sur le commerce. Le risque, disent-ils, est même de voir très bientôt des rayons vides dans les supermarchés. Hier, c'est la compagnie de train Norfolk Southern qui alerte. Les expéditions de voitures vont baisser. Dans la foulée, Boeing prévient de son côté si la guerre commerciale se poursuit, alors il devra vendre ses avions ailleurs qu'aux États-Unis et en Chine. Voilà, Karine, ce n'est ici qu'une partie des mises en garde des entreprises américaines parce que cette guerre commerciale, elle a déjà des impacts très visibles sur l'économie des États-Unis. Les Américains dépensent moins, les entreprises embauchent moins et le tourisme est en baisse. Voilà pour les résultats d'une enquête de la Fed publiée hier.
Nicolas Feldman du service Éco de RFI. À Madagascar, Emmanuel Macron a promis de créer les conditions du pardon de la colonisation. Une séquence mémorielle pour le président français dans l'île de l'océan Indien, ancienne colonie française. Une commission d'historiens des deux pays est mise en place sur, je cite, « les atrocités de la colonisation ».
La France, toujours secouée par l'affaire Betaram, un livre très attendu sort aujourd'hui.
Le silence de Betaram, du nom de cette école catholique du sud-ouest du pays. Des dizaines d'anciens élèves témoignent depuis plusieurs mois de violences physiques et sexuelles subies au sein de l'établissement pendant des décennies. Le Premier ministre doit être entendu le 14 mai par la commission d'enquête parlementaire pour savoir s'il savait ou non connaissance des faits. François Bayrou, touché personnellement depuis que sa fille a témoigné, Hélène Perlan l'affirme, c'est un père de victimes comme les autres. Elle accompagnait Alain Esquer, porte-parole du collectif des victimes, auteur du silence de Betaram, invité de France Inter ce matin. Sophie Volatier-Godard.
Je suis vraiment très très fier de toutes ces victimes aujourd'hui qui parlent à visage découvert et qui n'ont plus honte parce que la honte, elle doit changer de camp.
Contrairement à ce qu'Alain Esquer a longtemps pensé, aucun enfant n'était épargné à Notre-Dame de Betaram. Pas même les enfants issus de milieux favorisés.
Vous avez aussi dans le livre ce témoignage fou de Loïc, qui lui aussi fils de notable, et qui va se faire attoucher longuement pendant plus d'un an et demi, alors que moi-même je le croyais justement intouchable.
Une affirmation très largement soutenue par Hélène Perlan.
100% des enfants de députés à Betaram ont été ou tabassés ou violés, non pas parlés.
La fille du Premier ministre a aussi tenu à revenir sur une idée reçue.
J'entendais tellement de gens écrasés par l'idée que les fameux pseudo-notables auraient consenti à ce qu'ils soient battus ou violés sous prétexte, il y a eu une phrase terrible, que leurs enfants seraient d'une autre texture que les autres. Cette phrase, elle m'est restée en travers de la gorge.
Alain Esquer a aussi ajouté vouloir faire de son livre un outil pour lutter contre les violences faites aux enfants.
En France, encore cette dernière information. Un élève a poignardé à mort un lycéen. Trois autres ont été blessés dans un établissement scolaire de Nantes, dans l'ouest du pays. L'assaillant a ensuite été maîtrisé par le corps enseignant. Selon les tout premiers éléments de l'enquête, les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale sont attendus sur place.
Merci Karine Bellicha. À tout à l'heure. Il est 15h10 ici à Paris. C'est la dernière partie d'RFI Midi.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
Nous vous parlions hier de la peur des Haïtiens installés aux États-Unis, de l'angoisse permanente d'être expulsés maintenant que Donald Trump a suspendu ou est sur le point de suspendre les différents statuts de protection des réfugiés. Alors certains préfèrent prendre les devants, refaire leurs bagages, changer de vie une fois encore et tenter leur chance au Canada voisin. En 2 semaines seulement, les services frontaliers canadiens ont enregistré plus de 2000 demandeurs d'asile. Nafi Alibert.
Tu veux pas qu'on donne ton prénom, nom de famille ?
Non, okay. C'est incognito.
Alors on l'appellera Baptiste, il a 34 ans, il est haïtien, très tiré, voix calme. Il revient sur le long périple qu'il a mené à Montréal.
Puis on a traversé la frontière Saint-Bernard-de-la-Côle,
Juste après ce poste frontalier, un grand panneau bleu souhaite la bienvenue aux arrivants des États-Unis. Sur la gauche, l'autoroute file vers Montréal. Baptiste, lui, a pris le chemin de droite, plus incertain, celui où des bus blancs déposent les demandeurs d'asile dans un centre d'accueil aménagé à la frontière.
C'est accueillant. On nous traite très bien, on nous donne manger à temps, il y a cafétéria, il y a des espaces pour qu'on puisse prendre notre douche, il y a des lits, il y a tout. Mais le stress là, il est partout.
Ce stress, Baptiste le connaît bien. Ancien policier en Haïti, menacé de mort, il avait trouvé refuge en Floride il y a un an grâce au programme humanitaire de l'administration Biden. Il avait un emploi stable, un permis de séjour valide jusqu'en 2026.
Ben, on nous a envoyé une lettre de révocation de ce même programme. On nous a dit que nous devions laisser le pays avant le 13 ou bien le 24 de ce mois, avril 2025. Ça a tellement fait peur.
Alors Baptiste a fui, comme tant d'autres qui affluent au centre de traitement des demandes d'asile de Saint-Bernard-de-la-Colle.
Il y a plein de monde chaque jour parce qu'ils ont peur d'être renvoyés en Haïti. Moi-même, j'avais peur.
Vérification d'identité, antécédents, récit de vie. L'interrogatoire de Baptiste s'est étalé sur plus de 72 heures.
Et le jour après, beaucoup d'autres personnes arrivent, des familles, beaucoup d'enfants.
L'un d'entre eux pleure dans les bras de sa mère. Son exil s'est arrêté pour l'instant à Montréal, à la maison d'Haïti.
Et ces dernières semaines, nous, on reçoit à peu près 15 à 20 personnes par jour.
C'est pas négligeable.
Marjorie Villefranche est la directrice générale de l'organisme. Elle doit gérer cet afflux sans ressources supplémentaires.
On n'a pas de financement pour les aider, pour les soutenir, ni pour quoi que ce soit. Donc, ce qui veut dire que, en fait, c'est vraiment du travail en surplus pour nous, de prendre soin de toutes ces personnes, de les écouter, de remplir les documents pour eux.
La pression déborde sur la communauté haïtienne. Peggy Flore, elle, est arrivée il y a 4 ans. Aujourd'hui, ses proches aux États-Unis l'appellent à l'aide.
J'ai des cousins, des cousines qui ont sollicité mon soutien pour les aider, mais je peux pas. Je ne peux pas accueillir ces personnes-là parce que ce n'est pas des frères ou des sœurs.
La faute à l'entente sur les tiers pays sûrs qui bloquent l'accès à l'asile pour la plupart des personnes venant des États-Unis. Seuls les mineurs non accompagnés, les titulaires de visa ou les personnes ayant de la famille, mais de la famille proche au Canada, peuvent rester. C'est le cas de Baptiste. Ses deux sœurs vivent à Montréal. Mais pour les autres, c'est souvent le retour de l'autre côté de la frontière.
C'est triste et ça donne un sentiment de culpabilité aussi parce que on voudrait pouvoir faire quelque chose, mais toutes les portes se ferment, c'est une souffrance. À titre individuel, oui, mais de manière collective, on ressent beaucoup d'impuissance, en fait.
Depuis janvier, plus de 1100 demandeurs d'asile ont été renvoyés aux États-Unis, un chiffre record depuis 10 ans.
Et ce qui est absolument cruel.
Marjorie Villefranche plaide pour un programme d'accueil spécial et accéléré pour les Haïtiens, comme les Ukrainiens ou les Syriens ont pu en bénéficier.
C'est la même chose, mais je ne sais pas pourquoi les Haïtiens, brusquement, c'est on est envahis, la misère du monde. Attends, c'est la même situation, ce sont des gens en danger.
Ni Québec ni Ottawa semblent enclins à en faire plus, pas dans le vent politique du moment, mais tous s'accordent. Le système d'asile est défaillant, les délais pour une audience dépassent les 3 ans, c'est long.
Alors je vais attendre.
Pour Baptiste, ça reste un juste prix à payer pour retrouver sa sérénité. Nafia Liber, Montréal, RFI.
La fuite des Haïtiens qui espèrent échapper avant tout aux violences, à la situation extrêmement difficile dans leur pays. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Bonjour.
Bonjour Anne.
Ces violences, elles ont fait 5 morts hier parmi les membres d'un groupe d'autodéfense dans le quartier de Paco à Port-au-Prince.
Tout à fait. Et ces membres de groupe d'autodéfense s'étaient joints à la police pour essayer de déloger des bandits qui sont en train d'assaillir le quartier de Paco, qui est tout proche du canapé vert, là d'où proviennent ces brigades d'autodéfense. Mais malheureusement, ils ont perdu la vie dans les affrontements parce que les membres des gangs se sont déjà installés dans des maisons, ils mettent des pièges, ils posent des embuscades. Et malheureusement, la brigade et les policiers sont tombés dans un piège et ont été tués.
Et puis les gangs ont aussi accentué la pression depuis quelques semaines sur la commune de Mirebalais, dans le centre. On a eu l'occasion d'en parler ici. Et le niveau de violence est tel que l'hôpital universitaire de la ville ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre.
L'un des principaux hôpitaux d'Haïti, qui est aussi un centre de formation universitaire de renom international, c'est quasiment le meilleur hôpital du pays. Et malheureusement, hier, ils ont dû sortir un communiqué pour avertir les employés que l'hôpital est fermé jusqu'à nouvel ordre Parce que l'hôpital, ce n'est pas seulement l'hôpital. L'hôpital, c'est tout un écosystème. Il faut que les routes soient ouvertes, que les gens puissent venir, que l'approvisionnement puisse se faire. Et malheureusement, depuis la chute de Mirebalais, ce n'est plus possible. Mirebalais est devenue une ville fantôme. Et autour de l'hôpital, il y a de moins en moins de capacités d'accès. On ne peut pas continuer à fonctionner. On avait transféré les malades. Aujourd'hui, c'est officiel. L'hôpital de Mirebalais est fermé.
Hier, le Premier ministre a déploré la fermeture de cet hôpital. Il a aussi déploré celle de l'hôtel Marriott à Port-au-Prince, puisque l'entreprise a fermé ses portes, toujours à cause de l'insécurité.
Tout à fait. L'hôtel Marriott se trouve à Turgeau. Turgeau, c'est entre le Canapé Vert et Paco. C'est-à-dire qu'ils sont dans la ligne de mire des bandits. Ils sont à portée de fusil des groupes qui se battent. Et l'hôtel ne peut plus assurer la sécurité de ses employés, ne peut plus assurer la sérénité de ses clients. Et rien n'est sûr dans cette zone. Et les deux principales compagnies de télécommunications d'Haïti, la Digicel et la Natcom, se trouvent dans ce quartier aussi. Le Premier ministre promet qu'il y aura une réponse, qu'il y aura une protection. Mais les Haïtiens sont habitués à ces promesses. D'habitude, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et pour le moment, le Marriott ferme. On ne sait pas encore quelles sont les autres entreprises qui se trouvent à Turgeau, qui vont être obligées de fermer leurs portes, comme avant, les écoles ont dû fermer. Les entreprises ont dû fermer, les banques sont en train de laisser la zone. C'est une petite catastrophe à l'intérieur de Port-au-Prince, de ce qui restait du Port-au-Prince qui était encore vivable.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Tous ces articles sont à lire sur votre site lenouvelliste.com.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
On va lire la presse du continent maintenant avec vous, Vincent Sorio, bonjour.
Bonjour.
Les coulisses glaçantes d'abord de la production de café au Brésil.
Le Brésil produit près de 40% du café mondial, mais dans quelles conditions? C'est ce que El País et Le Guardian nous racontent aujourd'hui et c'est effrayant. Selon les données de l'inspection du travail brésilienne, entre 1996 et 2003, 3700 personnes ont été victimes, je cite, de pratiques assimilables à de l'esclavage dans les plantations de café. Journée de travail de 12 heures, aucun jour de repos, forcés d'acheter leurs propres outils pour travailler, logements insalubres, mauvais traitements. Et si ces pratiques ressortent aujourd'hui, c'est que des employés du café ont assigné Starbucks en justice aux États-Unis cette semaine. La chaîne américaine désignée complice de ces traitements dégradants car elle s'est fournie pendant des années auprès de ces fermes. Les victimes estiment que l'entreprise a fermé les yeux alors que des alertes ont été émises à l'époque sur ces conditions de travail. Et les victimes demandent un procès des dommages et intérêts pour travail forcé, traite d'êtres humains, enrichissement sans cause et négligence. L'ONG International Rights Advocates, qui soutient cette procédure, lâche dans El País cette charge au vitriol. Starbucks fait payer 6 dollars la tasse de café alors qu'il a été récolté de force, y compris par des enfants. Tout cela dépasse la qualification d'acte criminel. C'est tout simplement répugnant.
Vincent Sorio, on vous retrouve dans quelques instants. On va faire un détour, on va prendre la direction de l'Argentine, où des hommages ont été rendus au pape François, décédé lundi, le pape qui avait souvent mis en avant son amour du foot, l'amour de son club de cœur, San Lorenzo. Les joueurs en rouge et bleu s'en souviennent très bien. Théo Conscience.
88 235. Les supporters du club de San Lorenzo à Buenos Aires connaissent deux numéros d'abonnés par cœur, le leur et celui du pape.
Je crois que le pape symbolisait les valeurs de San Lorenzo.
Valentine, abonné numéro 35687.
San Lorenzo est un club fondé par un curé pour sortir les enfants de la rue. Et je crois que le pape incarnait cette dimension sociale, nos valeurs et notre identité.
Le pape François avait confié qu'il ne regardait pas les matchs de San Lorenzo, mais qu'il demandait à un garde suisse de lui donner les scores de l'équipe qu'il allait voir au stade quand il était enfant. Et quand San Lorenzo gagne la Copa Libertadores en 2014, un an après l'élection de François en tant que pape, certains, comme Nacho, y voient un miracle.
Après tout ce temps sans y parvenir, après tous ces échecs, finir par la gagner alors qu'un de nos supporters était au plus près de Dieu, comment ne pas y croire?
Le président de San Lorenzo a confirmé que le nouveau stade du club sera baptisé Papa Francisco en hommage au plus célèbre de ses supporters. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
L'Argentine, Vincent, où le pape François n'est jamais retourné durant ses 12 années de pontificat.
Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, archevêque de Buenos Aires, on s'en rappelle, hein, lorsqu'il est devenu pape. Il a bien visité 4 des pays qui entourent l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay, la Bolivie, mais il n'est jamais revenu à la maison. Et ses proches, cités par la BBC, y voient un dévouement total à l'Église dans son ensemble, un signe que le pape n'était pas seulement attaché à son peuple et à son pays, mais ça ne n'empêchait pas de suivre l'actualité locale de très près. Avec le prélat qui a pris sa suite à l'évêché de Buenos Aires, ils se sont écrits des centaines de lettres et on vient de l'entendre, le pape François suivait le foot argentin, il suivait aussi le tango, très attaché donc à sa culture. Alors pourquoi pas, pourquoi ne jamais revenir? J'aimerais aller en Argentine, disait-il encore l'an dernier, mais ce n'est pas encore prévu, il y a encore des choses à régler.
Manière papale de dire qu'une visite dans son pays d'origine aurait sans doute été un peu trop politique.
Oui, vu l'extrême polarisation qui régit la sphère publique en Argentine, lui qui s'était écharpé publiquement avec Javier Milei, qui l'a désigné autrefois comme l'incarnation du mal pour sa défense des plus pauvres, François ne voulait pas que tel ou tel président argentin se vante d'avoir fait revenir le pape chez lui. Compréhensible, mais regrettable pour bien des fidèles rencontrés en Argentine par le New York Times. S'il était revenu, sourit l'un d'entre eux, à lui tout seul, François aurait fait l'effet d'une Coupe du Monde de football.
Voilà pour l'Argentine. Sur une note beaucoup plus légère, avant de vous laisser Vincent, la Minute Nutrition.
Oui, ça s'adresse surtout à moi, bien sûr, hein, à lire dans les pages d'O Globo, grand quotidien du Brésil. Que se passe-t-il si vous arrêtez de consommer du sucre pendant un mois? Plusieurs spécialistes se sont penchés sur cette question. La consommation excessive de sucre, on le sait, hein, facteur de risque pour la santé des enfants, mais aussi des adultes, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, caries. Bref, c'est l'horreur parce que à force de consommer des glucides, l'organisme accumule la graisse et fonctionne en sur-régime. O Globo cite un spécialiste en nutrition sportive qui s'appelle Carlos Dorado. Il nous explique que dès qu'on arrête de manger sucré, premier bonus, le corps est forcé de brûler ses graisses pour compenser. Deuxième bonus, le taux d'insuline baisse, ce qui réduit la rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est lorsque le corps retient plus d'eau qu'il n'en élimine, ce qui fait gonfler le ventre, qui peut produire des œdèmes, vous emmener aussi un peu trop souvent aux toilettes, etc. Donc, arrêtez le sucre et tout ça va s'envoler. Troisième bonus, la peau de bébé. Au bout de 3 semaines, la peau commence à retrouver sa fermeté et son élasticité grâce à l'augmentation de la production de collagène. Vous serez beau comme une star de cinéma. Fini aussi les fluctuations de l'appétit, les pics de faim diminuent, le niveau d'énergie se stabilise. C'est presque de la magie et on nous apprend que pour y parvenir, le ministère colombien de la Santé préconise en premier lieu de réduire les cuillerées de sucre raffiné dans les boissons chaudes comme le café ou le thé. Et ça ne fait jamais de mal de le rappeler, Anne. Il vaut mieux manger une banane qu'une boîte de gâteaux au chocolat. Fruits et légumes, c'est bon pour la santé.
Vincent Souriot, il faut quoi? 3 semaines, 1 mois avant d'avoir les premiers résultats?
J'y suis presque.
On essaye et dans 1 mois, on fait de la radio filmée.
Ça marche.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer françaises. On vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'un secteur qui se porte bien et qui veut même faire encore mieux. C'est celui de la croisière à vent en poupe en Martinique.
271 400 croisiéristes accueillis, sans compter ceux arrivés au mois d'avril. Les chiffres sont bons sur l'île des Antilles, mais ce n'est pas une raison pour s'endormir sur ses lauriers. Il y a encore des points à améliorer. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais Bruno Brival, directeur du comité martiniquais du tourisme. Il est au micro de Manuel Larade.
Premier point qui est important, on va avoir plus de croisiéristes certes, mais notre objet aussi c'est d'avoir plus de croisiéristes qui descendent, qui font des excursions sur le territoire, qui dépensent aussi sur le territoire. Ça c'est un point qui est important. Aujourd'hui on cumule à peu près à 25% d'excursionnistes qui descendent du bateau et qui vont faire des excursions. Il y en a beaucoup plus qui descendent du bateau, on est bien d'accord. Mais toujours est-il que l'objet c'est véritablement qu'ils consomment un peu plus d'excursions sur le territoire, qu'ils découvrent un peu plus le territoire. Donc ça c'est vraiment un potentiel de développement que nous avons. On est à 25% comme je disais, notre objet c'est d'arriver à 40-45% comme la moyenne des coignages des territoires de la Caraïbe. Ensuite, on a encore, entre guillemets, on va dire un peu sous le pied, de capacité pour recevoir encore d'autres navires, donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions, ça se fera dans de bonnes conditions sur l'ensemble, bien sûr, des escales et des mouillages, hein, puisque vous avez des escales à Fort-de-France au niveau des Tourelles et au niveau de la Pointe-Simon, qui va s'améliorer d'ici la prochaine saison aussi touristique, et puis améliorer aussi cet accueil et ce potentiel sur l'ensemble des mouillages, que sont Saint-Pierre, que sont le Marin, que sont les Trois-Îlets, les Anses d'Arlet, etc.
On reste en Martinique avec un tout autre sujet, la fiabilité, on va dire, relative des prévisions météo. Hier, mercredi, par exemple, la vigilance jaune forte pluie et orage n'aurait pas vraiment, et si l'on ose dire, tenu toutes ses promesses. Reportage Xavier Chevalier.
Beaucoup ne croient plus les prévisions ou ont arrêté de les regarder.
On nous a annoncé de la pluie la semaine dernière. J'attendais pour mes plantes. J'étais content, pas tenir un goût de l'eau.
Parfois, c'est pas toujours au top des tops. Hein.
Franchement, je regarde même plus, en fait. En fait, il y a tellement de microclimats en Martinique que finalement, quand on se déplace, on se dit qu'on va voir directement sur place, quoi.
Météo France se défend en mettant en avant la petitesse du territoire, ainsi que les modèles qui ne sont pas adaptés à nos spécificités. Francky Bolina, prévisionniste.
On a un petit département, on a la chance d'avoir une alerte vigilance. Ça veut bien dire qu'il faut être vigilant. Pas parce qu'il y a de la vigilance qu'il y aura de la pluie partout. C'est juste d'être vigilant, se dire ben, si le risque est plus prononcé, admettons sur la montagne Pelée, le Carbet, ben, je ne pars pas en randonnée. Si ce n'est pas le cas dans le sud, ça ne m'empêche pas d'aller me baigner. Et de ne pas se dire ah ben non, il ne pleut pas. C'est juste dire en fait, il ne faut pas aller aux endroits où il y a un risque prononcé, c'est tout. Quand il y a un risque, on essaie de le montrer à la population. Évidemment, des fois, c'est pas parfait. Des fois, on se trompe. Mais le but, c'est quand même la protection des personnes et des biens, mais surtout des personnes.
Si les Martiniquais ne font plus confiance à Météo France pour le temps au quotidien, ils restent en revanche à l'écoute quand il y a des phénomènes du type onde, tempête ou cyclone.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On va écouter un peu de musique avant de se quitter. Celle d'Alun Wade, ici, avec une reprise d'Herbie Hancock, Watermelon Man. Watermelon Man, reprise d'Herbie Hancock, revue par le Sénégalais Alun Wade. C'est un extrait de son dernier album, New African Orleans. Merci d'écouter RFI. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Yann Eligouin. On se retrouve demain, 11h, temps universel. Et dans une minute maintenant, c'est Pascal Paradou que vous retrouvez pour son émission de Vive Voix. Très bonne journée à tous.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Elle est née sur un voilier en plein océan,
Mais sa mère s'est enfuie avec elle encore bébé. Elle n'a jamais revu son père, qui a fait naufrage quelque temps après avec sa sœur. Cette histoire est celle de Virginia Tangvald, fille du célèbre navigateur. Une histoire folle qu'elle raconte dans son livre « Les enfants du large ».
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.